Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est ensemble jusqu'à 15h avec Rémi Barré, avec le militant CGT et prof d'histoire géo Benjamin Hamar, la journaliste à l'incorrect Juliette Briens et le journaliste et écrivain Fred Hermel. Dans un instant, on parle d'accent avec l'acteur Raphaël Quenard ou encore le chanteur Patrick Fiori, moqué en raison de leurs accents. Mais avoir un accent aujourd'hui, est-ce un atout ou une faiblesse? Dites-nous tout au 3216 et sur l'appli RMC. À 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le Zappi. On se demandera notamment si vous êtes prêt à accueillir un jeune délinquant. C'est l'idée du ministre Éric Dupond-Moretti. Et puis on parlera également d'uniforme à l'école. Ça se passe très moyennement. À 14h, la journée mondiale du fromage. On en consomme de moins en moins en France. Alors faut-il réhabiliter le fromage à la fin des repas? Il y aura RMC Conso, on parlera de feuilles de paye. Vous risquez de toucher ce mois-ci votre salaire avec du retard. On vous expliquera pourquoi. Et puis on terminera avec les immanquables, Rémi.
Oui, et on parlera notamment dans les immanquables de l'hymne du jour. Ou des hymnes. Enfin, ah bon, des chansons qui pourraient être chantées lors de la cérémonie d'ouverture des JO.
Ah,
oui.
Bah écoutez, très bien.
RMC, Estelle Midi.
13h03 sur RMC, on va poursuivre Estelle Midi avec les moqueries du jour. Et ce sont celles qui ont visé l'acteur Raphaël Quenard ou encore le chanteur Patrick Fiori qui ont été victimes de glottophobie. La glottophobie, c'est une discrimination liée à l'accent. Comme eux, de nombreux Français subissent des railleries à l'école ou même au travail en raison de leur accent. Et pourtant, Rémi, c'est puni par la loi.
Oui, en novembre 2020, une proposition de loi sur la discrimination par l'accent. Alors, on parle essentiellement de la discrimination à l'embauche. Eh bien, elle a été adoptée par 98 voix contre 3 avec le soutien du gouvernement. Donc ça a été adopté par les députés de l'Assemblée nationale. La peine prévue pour ces moqueries ou formes de racisme, ce sont les mots employés, s'élève désormais à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. C'est vrai que selon un sondage IFOP, 16% des Français disent avoir été victimes de glottophobie, de raillerie sur leur accent au moment de leur embauche. Et si cela touche toutes les catégories socioprofessionnelles, c'est évidemment particulièrement le cas dans les secteurs où on s'exprime en public. Sans aller jusqu'à la discrimination à l'embauche, les accents régionaux peuvent être raillés, moqués, bref, menés à une stigmatisation qui complique les conditions de travail. D'après une autre enquête IFOP, si la langue et les accents ne constituent que 8% de ce que fait la fierté de la région de résidence pour les votants, 60% des sondés se disent attachés à l'accent de leur région, avec des variations géographiques. Parmi les Français les plus enclins à défendre l'accent de leur région, il y a d'abord les habitants de Provence-Alpes-Côte d'Azur. 78% se déclarent fiers de l'accent de leur région. Suivent les Occitans, les Bretons, les Hauts-de-France et la Nouvelle-Aquitaine.
Un accent en Bretagne.
Loin devant les Pays de la Loire, où seuls 56% des locaux apprécient leur accent.
Alors, avoir un accent, est-ce un atout ou une faiblesse? Je vais commencer avec vous, bien sûr, Fred Hermel, qui est du nord de la France. Vous n'avez pas d'accent, hein, Fred?
Je l'ai sur un mot.
Ah bon? Sur quel mot?
17, 18, 19, 20. C'est-à-dire, je ne sais pas dire 20, je dis 20 naturellement.
Oh, mais 20, bon.
Ah oui, bah, c'est comme choix. Hein.
Mais, ouais, alors, j'ai mais est-ce pas, que ça revient quand vous êtes chez vous avec votre mère, par exemple, dans le nord?
Avec ma mère, avec ma sœur.
Et votre mère, elle a un accent?
Non, mais quand on
votre
se
grand-mère.
Met à... Ma grand-mère, ma tante a un accent. Mais c'est au-delà de l'accent, c'est les mots utilisés. C'est-à-dire que c'est nous, à la maison, puis aussi, ça fait vivre nos aïeuls, en fait. Quand on vient à la maison, on aime bien plaisanter avec ma mère, avec ma sœur, avec des mots de patois, des mots utilisés par nos grands-parents, etc. Donc, non, mais dans la famille, enfin, on est tous bilingues. Même mon neveu, qui a 21 ans, il comprend parfaitement le ch'ti, quoi. Parce qu'on on aime bien, voilà, c'est un lien, vous voyez, ça alliage, j'allais dire.
Ça revient.
C'est un lien avec notre terre, avec notre histoire et tout ça. Donc, moi, j'y suis vraiment attaché. Je sais pas si c'est un atout ou un handicap, c'est une réalité. C'est une réalité parce que la France est faite de... C'est la République, mais elle fait de plein de régions.
Mais on entend de moins en moins d'accents. Moi, je suis très contente quand j'ai un auditeur au téléphone, des auditeurs qui ont un accent, et j'ai l'impression que ça me fait voyager. Mais je trouve, en tout cas aujourd'hui, que la plupart des gens gomment leur accent. Je trouve ça très dommage.
Mais parce que, en fait, les gens circulent beaucoup plus pour le travail dans les différentes régions. C'est-à-dire qu'avant, on était dans un département où j'ai jamais son département. Aujourd'hui, on bouge beaucoup plus. On peut être né à un endroit, on habite là, et puis finalement, on déménage là, etc. Donc automatiquement, ça gomme. Mais je pense que c'est authentique parce que l'histoire de France, et nous, dans le Nord, on a été espagnol pendant nombreuses années. Hein. Vous savez, c'était le Flandre espagnol. Hein. L'Artois, c'était et Lille et tout ça, c'était l'Espagne. Donc les Niçois sont français depuis la fin du 19e siècle.
1810. Hein.
Voilà, donc voilà, c'est l'histoire de France est complexe. Et moi, je trouve ça bien parce que dans un monde ultra globalisé. Où il y a de plus en plus d'aseptisés, où plus c'est le modèle américain qui s'impose, etc. Le fait d'avoir ces particularismes locaux, bah je trouve que ça renforce notre identité face, c'est le local face au global.
Juliette Briens, est-ce qu'un accent c'est discriminant pour vous aujourd'hui?
En tout cas, je pense que effectivement, dans certaines professions, dans certaines partie de la France, effectivement, je pense que ça peut être un handicap et que si vous allez à un entretien et que vous voulez vraiment le travail pour certaines professions, eh bien vous feriez mieux peut-être d'essayer de gommer votre accent. Pour ça, certaines professions, ça peut être un atout aussi. Voilà, parce que le super moscato show, bah sans l'accent, ça serait pas pareil. On est d'accord.
Ça
peut aussi être un atout. Ça peut aussi être inconvénient. En tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est que j'adore les accents français. Évidemment, je suis comme vous tous. On adore quand ça chante, que ce soit du sud, du nord. Les
ça chante moins dans le nord,
accent,
c'est,
oui.
C'est moins chantant.
Et même l'accent savoyard, parce que moi, je viens de Savoie. On a tendance à mettre des Y partout, genre Mézila. Tu vois, voilà. Moi, j'adore ça. Après, une nouvelle loi, vraiment. Une nouvelle loi pour qu'on n'ait plus le droit de se moquer des accents, mais se moquer des
non,
accents.
Mais c'est de la discrimination. C'est de la discrimination. Donc bah oui, c'est puni par la loi.
Quand on a l'accent du sud, on est fier de son accent du sud. Et si on se fait un peu moquer là-dessus au travail, bon, on le prend bien parce qu'on en est fier.
Mais
voilà.
Tu peux être fier de ton accent du sud dans le sud. Mais quand tu souvent malheureusement, et tu vois Frédéric Simotel, on en a parlé il y a un instant, il vient du sud, mais aujourd'hui tu peux pas savoir qu'il vient du sud parce qu'il a gommé son accent parce qu'on lui a fait gommer.
Ah voilà. Donc
tu dis on est fier de notre accent.
Chez lui, il retrouve son accent.
Oui, mais sauf qu'à Paris, t'entends de moins en moins d'accent.
Oui, mais
il y a beaucoup de gens qui viennent de province.
Par exemple, quand on travaille, je sais pas moi, dans le commerce, avec des en relation directe avec la clientèle, etc., et qu'on a un très fort accent toulousain. Je comprends.
Mais Jean Castex, ça t'a gêné?
Mais
je veux dire,
mais je comprends qu'un patron.
C'était pas l'accent.
Moi, ça me dérange pas du tout, mais je pense qu'une nouvelle loi, c'est pas nécessaire, en tout cas, c'est ce que je veux dire.
Benjamin Hamar, en tant que prof d'histoire géo, ben voilà, on sait il y a plein de régions en France avec des particularités pour chaque région. Est-ce que vous pensez dans 50 ans il y aura plus d'accent tout simplement parce qu'on est en train de les perdre?
Alors d'abord, le prof d'histoire, il précise tout à l'heure l'histoire de Nice, c'est dans le cadre de l'unification italienne que Nice est rattachée. C'est Napoléon III et donc soyons précis, c'est 1859-1860.
D'accord. Je vous aurais pas repris là-dessus, hein, je vais pas vous mentir.
On sait jamais.
C'est pour ça que j'avais 19e siècle comme ça.
Ouais, c'était avant, quoi.
Et donc, en l'occurrence, alors c'est vrai qu'il y a un processus d'unification linguistique, mais qui est ancien. Hein, ça s'est fait. D'abord, les patois ont commencé à disparaître de plus en plus. Et alors, il y a des pôles toujours, hein, quand même. Hein, regardez en Bretagne, les écoles d'Iwan. Il y a quand même toujours. Et moi, je pense que les langues régionales, c'est quelque chose d'important. Ouais. Ça fait partie de la culture de notre pays. Et aux côtés du français, ça ne doit plus être un souci. Et c'est vrai qu'ils ont été remplacés ensuite par la mosaïque des accents. Et que les injonctions à parler pointu, parce que c'est ça qu'on disait aux gens du Sud. Hein, toi, tu parles, je parle pas pointu. Et donc, cette injonction, quelque part, à professionnel, parce que quand on vient et qu'on fait un exposé pour sa boîte avec un accent du Midi, c'est vrai que c'est moqué. Alors certes, sur un ton gentil, mais quelque part, il y a un peu l'impression qu'on n'est pas vraiment aussi sérieux que les autres. Et moi, je pense que c'est très bien, parce qu'il y a toujours des gens qui sont dans l'excès. Et quand tous les jours, on vient vous rappeler votre accent, je comprends que ce soit fatigant et gonflant. Et puis moi, j'ai vu des vrais cas problématiques. Moi, dans ma carrière, je me souviens, une jeune collègue qui parlait avec l'accent marseillais très prononcé, et les élèves se moquaient d'elle en permanence, et ça devenait un objet de raillerie. J'avais un collègue aussi qui avait fui l'Algérie dans le cadre de la décennie noire et de la traque que les islamistes faisaient contre les professeurs et les intellectuels, et qui enseignait en France depuis un certain nombre d'années, qui parlait un français impeccable, mais avec un accent du Maghreb. Et c'était pareil, il y avait des élèves qui étaient infernaux là-dessus, et j'étais professeur principal à l'époque, et j'avais dû les menacer de conseils de discipline et procéder à des sanctions pour que ça cesse.
D'accord, mais si des gens sont un peu lourdingues et savent pas se comporter au travail, à un moment donné, c'est pas non plus.
Mais
on va pas faire
élèves.
Une loi pour tout. Si t'as un gros nez, tu vas te faire railler parce que t'as un gros nez.
Ça veut pas dire qu'on va utiliser la loi en permanence, mais de rappeler à certains qu'il y a une loi et qu'on très bien de se détendre. Ça engorge pas les tribunaux, mais ça règle les problèmes de comportement.
Notre invité sur ce débat, c'est Jean-Michel Apathy. Voilà, on est ravi, bien sûr, de l'avoir avec nous, éditorialiste pour l'émission Quotidien et co-auteur avec Michel Feltin-Palas de J'ai un accent et alors aux éditions Michel Lafond. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Estelle.
Jean-Michel, avoir un accent, est-ce que ça vous a servi dans votre carrière? Est-ce que vous auriez eu la même carrière si vous n'aviez pas eu cet accent?
Ah, comment voulez-vous que je réponde à cette question?
Ça fait partie de votre panoplie. Par exemple, dans les guignols de l'info, vous aviez votre personnage, on jouait beaucoup sur votre accent. Nicolas Canteloup, par exemple, vous singez aussi sur votre accent. C'est-à-dire que c'est une vraie particularité, quoi.
L'accent ne m'a pas desservi.
D'accord.
Ça, c'est sûr. Après, moi, je suis arrivé à Paris, j'étais déjà un grand garçon quand je suis arrivé à Paris. Je ne savais pas que la radio et la télé, ça existait. Je voulais faire de la presse écrite. Et donc, j'ai acquis un capital que les gens ont eu la gentillesse de me reconnaître sur le journalisme politique, qui fait que quand on m'a embauché à France Inter, il y a longtemps de ça, je ne veux même pas dire l'année, les personnes qui m'ont embauché ont considéré que l'accent pouvait être un petit plus.
D'accord.
Mais en même temps, pendant ces années à France Inter, après ça ne s'est plus produit, pendant ces années à France Inter, j'ai reçu du courrier. Pas beaucoup, hein, mais j'ai reçu du courrier. Des gens qui disaient, mais avec votre accent, vous parlez de politique, c'est gonflé, dis donc. Vous ne pouvez pas vous cantonner au rugby, ou au tiercé, ou à la météo? Voilà. Donc, voilà, c'est un peu tout ça, quoi. Les stéréotypes existent à propos de l'accent, des gens subissent des discriminations. Ouais. Dans le livre, on raconte la réflexion, alors ça n'est qu'une réflexion, la vie continue, d'un juge du Nord qui dit à un avocat de Toulouse venu plaider un dossier à Lille, il lui dit « Ah, c'est bien, vous nous apportez le soleil ». Mais c'est très con, on t'apporte rien du tout.
C'est vrai, mais c'est vrai que ça se dit beaucoup.
On t'apporte, oui, bien sûr, parce que c'est pas les accents, c'est les accents du Sud dont on parle. J'entendais quelqu'un qui disait l'accent savoyard, tout ça. Dans l'imaginaire, c'est l'accent du Sud.
Quand
Jean Castex est nommé Premier ministre, un journaliste politique de renom, un type sympathique au demeurant, dont je tairai le nom, et il travaille dans votre groupe, a dit « Ah, c'est bien, les troisièmes mi-temps, on doit s'amuser avec lui. Ben » Mais non, pourquoi? Si ça se trouve, il est chiant comme tout. C'est complètement stupide. Et derrière tout ça, quand Jean Castex a été nommé, tous les gens qui ont dit « Ah, il a l'accent du Sud », derrière tout ça, il y avait une interrogation inquiète. En tout cas, moi, je l'ai perçu comme ça. C'est-à-dire, on va confier l'argent de nos impôts à un type qui a l'accent du Sud.
Ouais, ça ne fait pas sérieux, quoi, c'est ça que vous voulez dire.
Ah non, le Sud, c'est bien pour la sieste et la pétanque. Le rugby, mais pas pour gérer l'argent.
Ouais. Jean-Michel, est-ce que vous avez quand même déjà eu des gens dans votre carrière qui vous ont demandé, des patrons, de gommer votre accent?
Non. Moi, non, honnêtement. J'ai été embauché à France Inter, j'avais presque, même passé 40 ans. Non, personne.
D'accord.
Non, personne.
Parce que c'est vrai qu'on entend de moins en moins de journalistes aujourd'hui à la radio ou à la télé avoir un accent, quoi.
C'est pas vrai. Vous avez Thierry Fioril qui fait du cinéma sur France Inter,
ouais,
qui
c'est
a
vrai.
Un accent. Non, vous en avez toujours quelques-uns qui passent entre les gouttes. Le problème, c'est ce qu'on ne voit pas. Ce sont des jeunes garçons et des jeunes filles qui entrent dans l'école de journalisme et qui on va demander de gommer l'accent, de le faire disparaître. C'est ceux-là qui souffrent. Les jeunes gens qui veulent faire du théâtre. Non, mais tu vas pas faire du théâtre avec la discrimination est souvent, la souffrance est souvent invisible. C'est comme ça. Mais vous savez, j'entendais M. Hamar qui disait, je ne veux pas du tout l'agresser, je vous dis ça gentiment, mais il a parlé de patois et de langue régionale. Mais ça n'existe pas. Le patois, ça n'existe pas. Enfin, je ne sais pas ce que c'est. Et les langues ne sont pas régionales, elles sont nationales. Et une nationalité a dominé les autres. Mais toutes les langues sont nationales. Le basque, c'est une langue nationale. Le breton, c'est une langue nationale. Et le corse, vous savez, on est sur le point de donner son indépendance à la Corse.
Ouais,
les Corses pourront faire la loi elle-même. Eh bien, le corse, c'est une langue.
C'est intéressant.
Oui. Non, mais ça, c'est une langue nationale. Non, mais, et évidemment, merci beaucoup Jean-Michel, en tout cas, d'avoir été avec nous.
L'indépendance de la Corse.
D'accord. Merci. Jean-Michel, on a énormément de témoignages sur ce sujet. Je vais commencer avec Marco, qui nous appelle d'Orange, dans le Vaucluse, et qui est chauffeur VTC. Bonjour Marco.
Et bonjour tout le monde.
Je vais éviter de vous dire, tiens, il nous amène le soleil.
Mais ma foi, c'est le plus bel accent de France et de Navarre. On amène le soleil. Moi, tous mes clients, quand ils arrivent, ils prennent le train, ils sont en pleurs, ils sont stressés, ils montent dans la voiture, ils ont le soleil, ils sont en vacances.
C'est une fierté. J'ai l'impression que c'est une fierté pour vous, votre accent, Marco.
Oui, bien sûr, mais bien sûr. Et par contre, je suis pas jaloux des autres accents. Je le prends pas mal quand les Parisiens se moquent de nous, mais pas du tout. Quand ils viennent à Orange dans la voiture après, ça les remet d'aplomb en place. Ils sont contents. Non. Moi, je suis fier de mon accent. Et je suis pas, mais il y a beaucoup d'accents qui sont jolis en France, hein. On a une belle France pour les accents. Il y a pas que le mien qui est beau, hein.
Ouais, après, c'est une question de goût. Mais alors, Marco, justement, quand vous prenez des Parisiens dans votre voiture, est-ce que vous trouvez qu'ils ont un accent?
Ah ben oui, il pleut dans la voiture.
Mais c'est ça. Non mais souvent, voilà, mais oui. Vous avez un accent, vous trouvez que les autres ont un accent, mais oui. Vous non en fait, donc ouais. Vous ne vous rendez pas compte de votre accent.
Mais le véritable accent parisien, il est très dur à trouver, hein. Ah, il y a de moins en moins de gens qui parlent avec cet accent. Alors, j'ai mon pote qui dit, lui,
avec la Gouaille.
Non, je sais pas le faire. Mon pote Sony, c'est un Parisien et tout. Alors, vraiment, ça se reconnaît.
Faut écouter les Français.
C'est
la Gouaille.
Faut écouter Jean-Guérin.
Français des années 40, 50.
Faut écouter les Tontons Flingueurs. Faut écouter ce genre de choses.
Ah oui, d'accord.
C'est parisien, ça.
Marco, est-ce que du côté d'Orange, du côté du Vaucluse, les gens tiennent à garder leur accent ou est-ce que ça se gomme de plus en plus?
Ouais, ça se gomme de plus en plus quand même. Mais on est fiers parce que nous, on a l'accent du Sud, on n'a pas l'accent de Marseille. On n'a rien à voir avec l'accent de Marseille. C'est un accent.
Un peu quand même.
À la région. Château-Neuf du Pape, le Mont Ventoux, tout ça, là.
Vous voyez, d'accord.
On est là, on est. Voilà. Non, mais ça se gomme, ça se perd un peu, là. Je vois de moins en moins d'accent. Parce que moi, j'ai 63 ans, moi. Donc, ça se perd un peu. Je le reconnais, c'est vrai. Mais moi, j'en profite, j'en joue un peu, surtout avec ma clientèle.
Ah oui, évidemment, c'est le côté un peu folklore. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Marco, en tout cas, d'avoir été avec nous. Marco, qui nous appelait d'Orange, dans le Vaucluse. Et vous avez des messages, Rémi, sur la pierre.
Message de Fred. Bonjour, la team. Un accent, c'est bien. Et en plus, ça permet de rire. Et il y a ce message de Drix aussi qui nous dit. Bonjour, l'équipe. J'ai 45 ans. Je vis dans le sud de la France. Quand j'avais 15 ans, un prof de français remplaçant et parisien nous forçait à parler sans accent. Comme il disait, faire les O avec la bouche. En cul de poule, nous dit-il. Les cours se résumaient à ça. Dans le sud de la France, imaginez la réaction des parents. Il n'a pas terminé l'année.
Oui. À mon avis, aujourd'hui, ce ne serait plus possible, tu vois, de faire gommer un accent à un élève. Mario, nous appelle de Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard. Bonjour, Mario.
Eh bien, le bonjour à la belle équipe de RMC, d'Estelle Midi, à mademoiselle Estelle Denis.
Ah,
bonjour.
Il n'y a que les gens du Sud qui nous appellent sur les accents.
Vous savez, ce qui vient dans le Sud, c'est que nous, notre accent, on l'a pas comme ça, on l'apprend pas. Il coule dans nos veines, comme les Corses. On est fiers de notre accent. On est fiers de notre terre et on est fiers de tout ce qui se passe dans notre région. Et on le fait partager de bonheur rien qu'avec l'accent. Mais le pire, c'est que chez nous, pour finir, c'est que moi, je suis né à Bagnols-sur-Cèze. J'ai grandi dans les Basses-Cévennes. Ça veut dire, j'ai pris l'accent mi-Millavois et mi-Provençal.
D'accord.
Qui fait mon accent de moi. Et vous allez à l'Est, ils parlent un accent différemment. Vous allez à Nîmes, ils parlent un accent différemment. Vous allez dans la petite Carmave, ils ont un accent différemment. Mais par contre, ils ont l'amour de leur région. Et c'est ça qui fait garder l'accent. C'est pas en vérité, on peut partir ailleurs dans n'importe quel pays. Tant que l'amour de notre région, elle est dans notre cœur, eh ben, l'accent, il y reste.
Et ça vous a jamais posé de problème, cet accent, Mario?
Ah non, jamais. De toute façon, moi, j'ai toujours travaillé des boulots manuels, donc il n'y a pas de souci. Et j'ai voyagé partout, sauf à Paris. Première fois que je vais passer, j'avais 17 ans. Je suis allé passer à Verdun, mon CAP d'ouvrier paysagiste, et je passe donc par Paris. Gare de Lyon, je m'arrête, donc je descends à la gare, je prends l'arrêt de bus, et je connaissais pas Paris du tout. Et on m'avait dit de prendre 62 ou 52, je sais plus, pour aller à la gare de l'Est, pour aller à Verdun. La première personne à qui je demande un renseignement, c'était qui? Un Alésien, un mec qui parlait avec mon accent.
Ouais, donc vous êtes bien tombé. En plus, si vous êtes né à Bagnols-sur-Cèze et que vous êtes resté à Bagnols-sur-Cèze, bon, effectivement, l'accent n'a jamais dû poser de problème, quoi.
En vérité, vous savez que chez nous, dans le Sud, on a un dicton qui dit on peut partir ailleurs quand on est jeune, mais un jour ou l'autre, quand on se sentira mourir ou quand on sentira en vérité le bonheur, on est toujours appelé au pays.
Oui. Voilà, donc vous êtes resté au pays, Mario. Avec ce petit accent qu'on adore, mais c'est vrai que Rémi le disait, voilà, les sudistes, on va dire, sont extrêmement fiers de leur accent. Et d'ailleurs, c'est l'accent qu'on entend le plus en France. Il y a beaucoup de régions qui ont gommé leur accent.
Oui. Alors après, je vois tous les jours quand je viens et je croise Rémi, on se parle avec l'accent ch'ti. Naturellement, il est entre nous. Parce qu'il y a une sorte, parce que monsieur racontait quand il a vu un. Il y a un côté, non, mais il y a un côté, voilà,
monsieur parlait.
Oui, monsieur, notre auditeur nous parlait de son arrivée à Paris. Il tombe sur une personne d'Alès, etc. On se reconnaît. C'est vrai qu'entre ch'tis, on se reconnaît parce que derrière l'accent, il y a toute une culture aussi locale. Donc,
comme disent nos auditeurs aussi, ça renvoie à l'enfance, ça renvoie aux grands-parents.
C'est que des bons souvenirs.
Moi, je sais que j'ai gommé l'accent aussi, que dans le Nord, on entend de moins en moins quand même l'accent. Mais de temps en temps, j'aime bien, quand j'ai une occasion, un samedi matin par exemple, aller dans un petit café qui paie pas de mine dans une petite ville du Nord et m'installer prendre un café et juste écouter les clients qui parlent et j'ai l'impression d'être chez ma grand-mère quand j'ai
et voilà, exactement. Voilà.
Mais je pense que c'est Fred qui a mis le doigt dessus. C'est vrai qu'effectivement, si ça se gomme, c'est parce qu'il y a aujourd'hui des échanges. Quoi.
Mais oui, voilà. Ça bouge beaucoup.
Il y a de l'importation et il y a de l'exportation dans les régions de France. L'accent
Il y a aussi le fait qu'on est tous. C'est le pas de vague finalement dans notre société, mais c'est on veut être un peu comme tout le monde, on veut pas sortir du moule.
Apparemment, pas les sudistes.
Non, mais
le temps de garder.
Après, encore une fois, Mario et Marco qui nous ont appelés, ils vivent dans le sud. Mais en fait, aujourd'hui, si tu connais des gens du sud à Paris, ils ont pas l'accent aussi fort.
Non.
Parce que je pense que et quelque part, je pense que peut-être même inconsciemment, t'essaies de le gommer pour te mettre un petit peu comme tout le monde.
Mais pour reprendre ce que disait Rémi, moi c'est la même chose. Moi toute mon enfance, j'ai entendu l'accent pied noir, l'accent séfarade.
Magnifique.
Ça me rappelle ma grand-mère, les anciens, des moments. Et c'est vrai que comme les pieds noirs, les juifs séfarades d'Afrique du Nord qui ont vécu en Afrique du Nord, maintenant ils ont un certain âge et ils sont de moins en moins nombreux, il y a quelque part cet accent se perd progressivement et c'est toute une époque qui s'efface. Moi, de la même manière, ça m'arrive d'aller régulièrement dans certains bars de Belleville pour entendre encore quelques vieux juifs tunisiens et vous avez toute une musique et d'une époque qui se perd. Donc la diversité des accents et encore une fois par rapport à ce que disait, il y avait rien de péjoratif quand je parlais des patois et des langues régionales. Pour moi, c'est des patois et des langues régionales aujourd'hui. Oui. Voilà, c'est pas des langues nationales. Mais ça n'enlève rien à la richesse et à leur diversité, bien au contraire.
Waïba nous appelle de Vougy, en Haute-Savoie. Il y a des chefs d'entreprise dans le nettoyage. Bonjour Waïba.
Bonjour Estelle.
Merci beaucoup d'être avec nous. Waïba, atout ou faiblesse, votre accent, c'est un tout petit accent.
Oui.
C'est un atout ou c'est une faiblesse pour vous?
Ah non, c'est un atout. C'est un
d'accord.
Atout et puis je ne pense pas que ce soit... Je ne dirais pas que ce soit un atout et une faiblesse, je pense que ça fait partie de nous. Moi, d'accord. Ça ne m'a jamais posé de problème.
Il vient d'où votre accent?
Pardon?
Il vient d'où votre accent?
Je suis algérienne d'origine.
D'accord.
D'origine algérienne. Et puis, alors, moi, avant, je ne le savais pas. Mais quand je discute avec les personnes, des fois, on fait la remarque comme quoi que j'ai un accent.
D'accord. Et vous, en fait, c'est ça, vous avez découvert que vous aviez un accent quand on vous l'a dit finalement?
Oui, oui.
Mais on ne vous l'a jamais reproché cet accent, Waïba?
Jamais, toujours... jamais. D'accord. Non, au contraire, jamais, jamais.
Vous avez des enfants, Waïba?
J'en ai deux.
Ils ont l'accent ou pas?
Non.
D'accord. Donc en fait, il n'y a pas eu de mimétisme, en fait.
Non, du tout.
C'est ça. Et vous, finalement, votre accent, vous le chérissez, quoi?
Oui, oui, bien sûr.
Eh ben merci beaucoup Waïba en tout cas voilà
comme
l'accent.
Comme quoi il y a pas grand monde qui a l'air très traumatisé hein. C'était bien la peine de faire une loi.
Mais
encore
non, mais c'est pas une
du histoire... temps
mais oui,
utile.
Mais elle a raison Juliette.
Voilà.
Elle a raison.
Mais non mais enfin c'est toute discrimination.
Oui, ce sont des gens qui disent tiens c'est une petite niche on va se faire mousser en faisant une loi comme ça le député il est très content il a fait sa loi sauf que dans la vie des gens ça n'a aucun impact.
Mais écoutez si vous êtes pour les discriminations.
Mais c'est pas
moi je suis contre personnellement. Et donc, je suis pour la lutte contre toutes les discriminations. Il y a même une loi sur les discriminations capillaires.
Alors ça, il faut qu'on en parle, parce que Benjamin et moi, on est outrés parce qu'on ne voit pas assez de nous. C'est ça, c'est...
Il y a une loi pour tout le monde, vous voyez. On termine avec des messages, Rémi.
Pour les mecs qui s'appellent Rémi, tu vois, il y a des lois pour les mecs qui s'appellent
Rémi. Et le résultat de notre sondage sur Twitter.
Allez, ce petit message de Cyril qui nous dit « Désolé, j'avais envoyé un message incompréhensible, c'est vrai que je ne comprenais pas trop, mais là, je le comprends très bien. Avec mon accent du Sud, quand je vous parle, vous bronzez. Je vous embrasse. » Et ce message également, ça t'est destiné, d'Assignan qui nous dit « Le Navarro, j'écoute » de Roger Hanin n'aurait pas eu le même impact. sans l'accent.
Ouais. C'est vrai. Ça,
bah, oui. Évidemment.
Ça, c'est vrai. Avoir un accent régional, est-ce un atout ou une faiblesse, Rémi?
C'est un atout pour 79% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
Donc, très, très large majorité. Dans un instant, le zapping, le meilleur d'RMC. Seriez-vous prêt à accueillir un jeune délinquant dans votre famille? C'est une idée loufoque ou pas du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. On va parler de l'uniforme à l'école. Je ne vais pas vous mentir, ça ne se passe pas très, très bien. Et puis, faut-il interdire les trottinettes électriques? À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
Oui, de retour sur RMC, RMC Story dans Estelle Midi. Et tout de suite, c'est le zapping, le meilleur d'RMC. C'est parti.
RMC, Estelle Midi,
le zapping RMC.
Le zapping RMC avec Rémi Barré, Benjamin Hamard, Juliette Briens et Fred Hermel. On va démarrer avec un extrait des Grandes Gueules ce matin. Êtes-vous prêt à accueillir un jeune délinquant chez vous? C'est en tout cas une idée du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui souhaite lancer une campagne d'accueil temporaire afin d'offrir un cadre de vie familial stable et sécurisant pour les jeunes ayant commis des infractions. Tout le monde peut se porter volontaire, peu importe son sexe, sa situation familiale ou encore son lieu de vie. Mais pour Anthony, auditeur RMC, qui a déjà accueilli deux jeunes à son travail, eh bien cet accueil n'est pas si simple à mettre en place.
Moi, pour faire très simple, c'est déjà arrivé à deux reprises. Donc j'ai accueilli deux jeunes dans la structure dans laquelle je travaille. Étant moi-même issu d'une enfance un peu délicate, je me suis dit bah, pourquoi pas essayer de passer l'appareil et puis aider quelqu'un à sortir de la galère, tout simplement. Sauf que les deux fois, ça s'est super mal passé. Il y en a un qui répondait à chaque fois, qui ne voulait pas écouter les conseils, qui ne voulait pas être formé. Il n'y avait pas l'acceptation de la hiérarchie, il n'y avait pas l'envie d'apprendre, il n'y avait pas toutes ces choses-là.
Alors, est-ce que vous seriez prêt à accueillir un jeune délinquant chez vous? Alors, l'idée comme ça, elle peut être séduisante, Benjamin Hamard, mais enfin, je me dis qu'il faut quand même quelques compétences. Déjà que la plupart des parents de ces délinquants n'y arrivent pas, la police n'y arrive pas, donc c'est un peu compliqué pour une famille d'accueil.
Ouais, on n'est pas dans un épisode de Mimi Mati, on est dans la vraie vie, donc il faut arrêter de délirer.
Mimi Mati pourrait peut-être.
Oui, Mimi Mati, elle pourrait, ça ferait un super scénario, mais dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Il y a quelque chose qu'on appelle la réinsertion, il y a un travail qui s'appelle le travail d'éducateur spécial. S'il s'agit de délinquants, il y a la protection judiciaire de la jeunesse. Tout ça, c'est des métiers. On s'improvise pas. Et ben donc, non. Bien évidemment, il n'y a rien d'étonnant à entendre cet auditeur dire que, alors, il part plein de bonnes intentions. Mais oui, ça s'est pas bien passé parce que ces jeunes, puisqu'il faut enfoncer les portes ouvertes, ont un problème avec l'autorité, ont des soucis familiaux. Et tout ça, ça se règle pas d'un claquement de doigts parce que on est sympa et qu'on lui a offert un café. Donc, c'est typiquement ce qu'on appelle une fausse bonne idée parce que tout simplement, on n'a pas les moyens pour les structures nécessaires. Et donc, on fait du bricolage et c'est très dangereux.
Mais vous êtes prof, par exemple, vous savez quand même encadrer des jeunes. Est-ce que c'est un truc qui pourrait vous séduire?
Non, mais alors, d'abord, c'est encore un autre métier, parce que ça y a tout un aspect de métier de travailleur social, que je respecte hautement, mais c'est pas du tout, moi, les métiers que je voulais faire. Et d'ailleurs, on a des fois des profils d'élèves en très grande difficulté, des profils spécialisés. On ne s'improvise pas. Ce sont des métiers à part, il y a une formation spécifique. Bien sûr, l'autorité fait partie des vertus à avoir, mais pas seulement. Et on ne s'improvise pas sur ces métiers-là.
Juliette Briens, est-ce que l'idée est séduisante ou pas du tout, selon vous?
Oui, évidemment, mais l'idée, elle est grotesque. Mais moi, je pense qu'il ne va pas beaucoup sur le terrain, Éric Dupond-Moretti. Je ne sais pas quand c'est la dernière fois qu'il a vu un délinquant.
Il peut en avoir.
Il a défendu, quand même.
Mais franchement, c'est quand même assez inquiétant.
Il peut en accueillir chez lui.
Avec la violence qui monte et qui ne cesse de grimper, particulièrement chez nos jeunes aujourd'hui, et qu'on réclame de la fermeté, qu'on réclame la fin du laxisme, qu'on en soit encore à proposer des idées aussi grotesques que on va aller placer des délinquants dans des...
Mais c'est pour avoir un cadre de vie stable.
Ridicule.
Pour les changer de leur quotidien.
Ils ont pas alors on fait quoi? Enfin,
vous n'êtes pas très généreuse quand même.
Ils ont pas de parents, ces délinquants.
Bah si, ils ont des parents, mais qui sont défaillants, puisque ça... Voilà. Bah, donc on les met avec des parents non défaillants, tu vois, avec un cadre vie stable, j'imagine, un intérieur. Enfin, ils doivent pas vivre à Versailles, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, tu leur offres un cadre de vie peut-être plus verdoyant, peut-être plus grand, avec une structure familiale stable. La plupart des gamins, effectivement, en infraction, ils sont issus de familles monoparentales.
Mais les gamins, ils sont dans un tel état. Faut se rendre compte de ce que c'est. Enfin, quand on est multi-délinquant à 14-15 ans, on est dans un état qui n'est pas réparable simplement par un petit cadre et un petit bout de jardin. Enfin, c'est ridicule. Il faut des professionnels. Il faut. Bah, c'est genre. C'est...
Ah oui, mais ça marche pas.
Enfin, c'est inquiétant. Je vous dis qu'on n'est pas sorti de l'auberge dans ce pays. Hein.
Je vais vous surprendre.
Oui.
Il y a un truc qui m'énerve, c'est quand l'État se décharge sur les citoyens. Parce que là, c'est la faillite de l'État qui dit ah bah ouais, bah, faites ça les citoyens. Alors à la maison, non. Par contre, en entreprise,
c'est dommage parce que alors là, vous savez quoi, j'aurais tout de suite mis une caméra chez vous et j'aurais fait un doc pour RMC Story, voyez.
Ouais, non mais déjà, je pense que une autre personne que moi chez moi, c'est problématique.
Oui, voilà. Donc,
voilà, c'est déjà, c'est déjà moi-même avec moi-même, c'est dur. Donc,
déjà, il aurait pas le droit de toucher ma vidéo. Enfin bon, bref. Alors continuez. Non.
Par contre, l'insertion dans l'entreprise, j'y crois. Par le travail. Ça oui. Ça vraiment j'y crois parce que à un moment et il y a des passions, il y a des gamins. Alors quand ils ont 18 ans, c'est fini, mais quand ils ont 13 14 ans, pense qu'ils sont encore récupérables.
Normalement à 13 ans, on n'a pas le droit de travailler, vous savez ça.
Non, bah l'apprentissage hein, ça peut commencer aussi hein. Oui. Bah oui, mais ben tu vois, il y a des trucs, tu commences à travailler le bois, il y a des passions qui peuvent se je pense vraiment que des gamins qui font que des conneries et du jour au lendemain, on leur donne une petite responsabilité à construire quelque chose, d'être avec des maîtres des maîtres qui leur apprennent un métier, enfin je veux dire je crois que c'est possible, pas à la maison, mais dans des entreprises, dans des ateliers, etc., avec, bien entendu, l'encadrement dont parlait Benjamin, qui est évident. Je pense que l'insertion, plus que par la vie chez les gens, elle passe par le travail et la découverte d'un métier.
Il faut Pascal le grand frère qui...
Oui, c'est ça. Les grandes gueules, ce matin sur RMC, on va parler d'uniformes à l'école. Le gouvernement nous prend-il pour des imbéciles alors que la promesse de l'État était que les uniformes fournis aux élèves seraient fabriqués en Europe? Eh bien, des parents de la ville de Puteaux, en banlieue parisienne, ont découvert que ceux-ci avaient été fabriqués au Bangladesh et au Pakistan, donc pas en Europe, évidemment. Deux pays qui ne respectent pas tout à fait les normes sociales et environnementales, et ça scandalise la chef d'entreprise Flora Gebali.
C'est extrêmement grave et extrêmement choquant, et le fait qu'on puisse pas demander du Made in Europe dans un cahier des charges public, c'est scandaleux. Ce qui est aussi surprenant, c'est qu'un cahier des charges public, aussi compliqué qu'il soit, parce que nous on répond avec mon entreprise à des appels d'offres publics, je peux vous dire qu'on passe un temps fou dans de l'administratif, n'arrive pas à imposer ces conditions. Il faut respecter l'industrie européenne et l'industrie française, il faut produire en France et en Europe, non seulement parce qu'en le faisant ailleurs on ne respecte pas les droits de l'homme, mais en plus parce que voilà un marché formidable pour les entreprises de textile européennes. Donc soutenons l'emploi local aussi.
C'est quand même un gros couac, hein, Benjamin Hamar, ça ne commence pas très très bien. Et pourtant on y croyait quand même.
Alors vous y croyez peut-être, oui. Moi vous savez très bien ce que j'ai dit sur tout cela.
Oui, je sais bien, oui.
Un grand sujet gadget qui fait bien, on l'a bien vu tout à l'heure avec le sujet du proviseur, que les problèmes de l'école en aucun cas ne seront résolus par ce genre de situation. Mais alors en plus dans la mise en œuvre, visiblement, ça a l'air bien bordé. Alors bien sûr, l'État va se défausser sur la ville c'est la ville qui a commandé cela.
Parce que la ville, elle a essayé de commander une Made in France. T'imagines, elle a vu le prix, elle a dit attendez, au Bangladesh, c'est 8 fois moins cher.
Voilà une problématique que le gouvernement aurait pu anticiper avant de faire des grandes annonces à Uadia.
C'est pas faux.
Et donc, on est moi tout à l'heure, enfin, ce que je disais au moment où il y a eu tous ces grands discours, c'était que avant tout, le gouvernement communiquait, il faisait de la com à peu de frais. Et quand on vient dans la mise en œuvre concrète, eh ben, tout à coup, le réel toque à la porte. Et les contraintes du réel aussi. Donc, attendez, on est au stade de l'expérimentation. Oui, attendez de voir qu'on arrive à la généralisation. Croustillant.
Fred Hermel, il faut la continuer, cette expérimentation. Pardon.
Oui, parce que moi, j'y crois. J'aime ça.
Après, même si les uniformes sont fabriqués au Bangladesh.
Après, c'est la ville de Puteaux qui a reconnu une erreur, puisque suite, en disant que ça se reproduisait plus, que ça devait être des vêtements faits en Europe. Donc normalement au Portugal.
La ville de Puteaux dit que normal, ils avaient prévu. Voilà.
Au Portugal.
Effectivement, mais compte tenu du délai extrêmement court. Oui. De l'expérimentation, puisque elle a déjà débuté, ils ont payé le prix. Les uniformes n'auraient pas été prêts.
Ils sont bien gentils, quoi. Mais il y avait un piège de la taille d'un puits. Ils ont pris de l'élan et ils ont sauté dedans à pieds joints. À un moment donné, il y avait un piège. Je pense même que j'y avais pensé. Je me suis dit, avant, quand ils ont annoncé l'expérimentation, je me dis, imagine, il y a un con. Quelque part en France, il commande des uniformes pas en France. Et je me suis dit ça dans ma tête. Et c'est quand même fou, tomber dans ce piège, c'est fou. Après, ça enlève rien à peut-être l'efficacité de de l'uniforme, mais là, ça, c'est vraiment désastreux, quoi. Enfin, pardon, mais
de toute façon, on attend les résultats de cette expérimentation d'ici quelques mois. Apolline Matin, ce matin sur RMC, faut-il interdire les trottinettes électriques ? À compter d'aujourd'hui, tous les conducteurs de trottinettes électriques vont devoir respecter le code de la route au même titre que les vélos. Mais sont-ils vraiment prêts à le faire ? Pas sûr, comme l'a constaté notre reporter RMC à Lyon.
Utilisateur régulier des trottinettes partagées, Nathan n'est pas forcément très à cheval sur le code de la route.
Quand il n'y a personne au feu rouge, on passe et bon, on prend un sens interdit de temps en temps.
La faute, en partie, à des règles pas très claires selon cette trottinettiste quasi quotidienne.
Ils se disent qu'ils peuvent à la fois aller sur la piste cyclable ou alors sur la route et du coup, ils se permettent des choses qu'ils ne devraient pas faire. Quoi.
Pour certains, aligner la signalisation sur celle des vélos est donc une très bonne nouvelle.
Plus les mesures seront drastiques, entre guillemets, et coercitives, plus ça sera respecté.
Mais pour d'autres, ça ne changera rien.
Le problème, c'est pas les vélos qui sont en cause, ni les trottinettes. Ce sont les gens qui sont dessus.
Oui, évidemment, le monsieur de la fin a plutôt raison. Évidemment, est-ce qu'il faudrait les interdire purement et simplement ces trottinettes électriques, Benjamin Hamar?
Alors moi, je suis un ancien conducteur de trottinettes électriques. Mmh. Et très rapidement, j'ai respecté scrupuleusement, j'ai mis mon casque, etc. Mmh. J'ai vu des trucs de dingue, mais vraiment des comportements de fous furieux. Comme disait la personne qui était interviewée, c'est-à-dire en fait, on est sur la trottinette comme on n'avait pas visiblement un certain nombre de règles, on n'avait pas les mêmes règles que les cyclistes. Alors, on faisait à peu près ce qu'on voulait. J'avais fait un petit décompte. Il y avait 90% des utilisateurs de trottinettes qui respectaient pas les feux.
Voilà. Ah bah oui.
Et moi, je les respectais régulièrement. Ça pouvait arriver que d'autres conducteurs de trottinettes me fassent la remarque. Mais enfin, pourquoi tu t'arrêtes? Donc, je pense que la solution, c'est que tout simplement, on mette en œuvre des mesures drastiques de contrôle et d'exigences strictes du code de la route, comme par exemple pour les vélos. Et qu'il y ait donc de la verbalisation, les gens vont comprendre comme ça. À Paris,
Comme il n'y a pas de plaque minéralogique pour les retrouver, bonjour.
Non, mais sur le fait, déjà. Et honnêtement, par contre, j'avais remarqué une chose. À Paris, les infractions étaient 10 fois supérieures aux villes de banlieue. C'est-à-dire qu'à Paris, c'était une zone de non-droit absolue.
Mais tu as 10 fois plus de pistes aussi. Donc.
Ils prennent des pistes.
Oui.
C'est aussi une infraction. Moi, encore hier, en
sortant. Tu as le droit, en trottinette, de prendre la piste cyclable.
Oui, ils la prennent. Parce que je pense à toi, tu sais qu'en sortant de la radio, on a une piste cyclable.
Oui, ça je sais bien, oui.
Hier, j'ai été croisé par un gars sur une trottinette électrique. La piste était à 20 cm de lui.
Merci.
Et non, d'accord. Il était sur le trottoir. Sur toi.
Merci, moi ça arrive tous les jours. Et les vélos, pareil.
Frère, vous m'avez excédé.
Ah non, mais moi, ce genre de truc. Alors moi, je pense sincèrement que la trottinette est un signe de la décadence de la civilisation.
Carrément.
Il est dans un mec de 50 berges sur une trottinette. C'est horrible.
Et il a pas le droit.
Non, mais les trottinettes, c'est quand on était petit à partir de 15 ans, on doit se moquer, quoi. Franchement, non, mais même pas.
Ah, c'est super sympa à conduire.
Mais non, mais t'as plus de 12 ans, t'es sur une trottinette, mais on doit.
Je vois pas le problème. C'est très sympa.
On va faire une loi pour lutter contre la discrimination des gens qui se moquent des gens qui sont sur des trottinettes. Mmh. Alors si c'est les mêmes règles que les vélos, ça veut dire c'est la foire d'empoigne, parce que personne, les vélos, il y a rien pire que les vélos. Mais franchement, aujourd'hui à Paris, comme c'est plus en libre-service, parce que nous sommes beaucoup à avoir voté non à l'interdiction du libre-service, c'est vrai que ça s'est quand même amélioré, parce qu'il y a quand même beaucoup moins de trottinettes, déjà.
C'est dommage. Moi,
le problème, ce sont les vélos qui ne respectent rien. Tu parles de cette trottinette là sur le trottoir là en ce moment du bureau, et moi tous les jours je vois des vélos. Et l'autre jour, j'ai même vu quelqu'un avec le même badge que nous. Je lui ai dit, je ne connaissais pas. Je lui ai dit, cher collègue, vous avez une piste là. Il était à 30 cm, il était sur le trottoir. Mais c'est une question d'éducation.
Moi, je suis pour
le fait qu'il y ait des plaques minéralogiques sur les trottinettes, sur les vélos. Et je veux te dire que le déficit de l'État, on va le régler en 15 jours.
Allez, on termine avec Apolline Matin. Allez-vous manger du chocolat à Pâques alors que le prix de la tonne de cacao vient d'atteindre le prix record de 10 000 $? Les œufs et les poules que vous achèterez pour offrir aux enfants ce dimanche ont vu leur prix augmenter plus haut que l'inflation. Et les consommateurs s'adaptent déjà, comme l'ont constaté nos reporters RMC à la sortie d'une grande surface.
On se laisse pas avoir, on n'est pas des pigeons quand même. Hein. Donc on fait attention, on en achète moins, mais on achète du bon.
J'ai des œillères. Le chocolat, c'est trop bon. Je regarde pas, j'avoue. Moi, je regarde justement le prix au kilo. Et des fois, passe du simple au triple, facile. Puis en plus, on est des enfants, donc il faut au moins qu'il y ait un Kinder dans le lot, sinon ça fait la tronche.
Est-ce qu'on est obligé de manger du chocolat à Pâques, lui?
Non, on n'est pas obligé de manger du chocolat à Pâques. Moi, je le ferai pas. Je vais pas commencer à me gaver de chocolat.
Tu peux manger un petit peu
avant l'été, quoi. Non. Si j'avais des enfants, par contre, on est obligé de faire Pâques avec ses enfants. C'est très sympathique. Moi, j'ai toujours pas d'enfants, donc je vais passer sur le chocolat pour ce Pâques.
Moi, je cache des œufs chez moi et je fais ma propre petite chasse. Mais il faut respecter les traditions de
l'école,
Juliette.
Vous avez, vous avez une vie palpitante, Fred Hermel. Bon.
En parlant
ça peut
rendre votre vie encore plus palpitante. C'est le retour du coffre RMC. Nous vous offrons jusqu'à 50 000 euros. Le signal, il vient de tomber. Vous avez, à partir de maintenant, 5 minutes top chrono pour vous inscrire en envoyant le mot coffre par SMS au 73216. Coffre par SMS au 73216. 50 000 euros. Coffre, SMS, 73216.
Dans un instant, RMC s'engage avec vous avec une enquête d'Amélie Rosic sur les antibiotiques aux graves effets indésirables. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
Il est 13h50, vous êtes sur RMC, RMC Story dans Estelle Midi. Et vous le savez, à 13h50, tous les jours, du lundi au vendredi, on vous aide grâce à Amélie Rosic. Voici tout de suite, RMC s'engage avec vous.
Estelle Midi.
RMC s'engage avec vous.
Et aujourd'hui, Amélie, c'est une grosse, grosse enquête que vous nous révélez dans RMC s'engage avec vous. On parle de médicaments et pas n'importe lesquels, des antibiotiques.
Ouais, les fluoroquinolones, comme le Ciflox ou le Tavanic, il y en a plein, hein, ça ce sont des exemples. C'est une classe en fait d'antibiotiques qui est utilisée depuis plus de 30 ans pour traiter certaines infections bactériennes graves, mais qui fait aussi de gros dégâts. Dans le cas de Françoise, le médecin lui a prescrit 4 jours de traitement pour une salmonellose, 4 jours qui ont changé sa vie à jamais.
Ça fait maintenant 8 mois que je suis tétraplégique. Je ne peux plus soulever une assiette. C'est le fait d'avoir besoin de quelqu'un pour aller aux toilettes. On est complètement dépendant. Moi, j'étais quelqu'un de très autonome et je suis détruite.
Vous avez bien compris, Françoise, elle était en parfaite santé. Elle nous dit d'ailleurs qu'elle adorait danser, voilà, qu'elle peut plus rien faire. Les effets indésirables de ce médicament, ils sont connus. Troubles neurologiques, atteinte des nerfs, des tendons, troubles cardiaques. Mais il est autorisé et considéré comme utile dans certains cas. Et c'est ce que Françoise ne comprend pas.
Je suis outrée qu'un médicament avec de tels effets graves soit sur le marché. Je ne veux pas que ça arrive à d'autres personnes.
Amélie, il y a un an, pour que ça n'arrive pas d'ailleurs à d'autres personnes, les patients ont porté plainte contre leur médecin et contre X.
Exactement, et un an plus tard, c'est une information RMC qu'on vous révèle. Une enquête est ouverte par le parquet de Paris pour homicide involontaire et tromperie. C'est précisément ce que demandaient ces patients. Au total, une vingtaine de plaintes ont été déposées. Philippe Coville, victime lui aussi, est président de l'association qui regroupe à ce jour 650 patients. Il dénonce un défaut d'accompagnement de la part des autorités sanitaires et propose un changement clair, net et précis.
La mise en place d'un processus tout simple de sécurité qui est sous la forme d'une attestation d'information partagée qui serait signée du médecin, vérifiée par le pharmacien avant la délivrance du médicament extrêmement toxique pour la santé.
Solène Leroux a donc porté sa demande et l'Agence nationale de sécurité du médicament, la ANSM, l'a entendue, figurez-vous. Ah. Ouais, la mise en place de cette attestation co-signée par médecin et patient, donc qui dit qu'il a bien été informé de tous les effets indésirables et qu'il souhaite quand même prendre le traitement, est aujourd'hui à l'étude, donc c'est pas demain, mais ça avance. Ça, c'est pour le volet prévention. L'association alerte aussi sur le désarroi complet des victimes, mal prise en charge et ruinée par des traitements coûteux parce qu'il y a tout ce qui est remboursé par l'assurance maladie. Et puis il y a tout ce qu'on appelle des soins de confort, par exemple de l'ostéopathie ou des choses comme ça, et qui, quand vous n'êtes pas reconnu en affection longue durée, il n'y a que 30 maladies qui sont reconnues, bah, en fait vous êtes mal pris en charge, il faut que vous payiez le taxi.
C'est pas sûr que l'ostéopathie soit remboursée voilà, dans une affection
même
longue durée.
Même dans une affection longue durée, alors il y a des forfaits.
Kiné, oui, mais ostéopathie.
Il y a des forfaits quand même. Donc voilà, c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Et donc cette association réclame aussi la création en fait d'un comité d'experts qui serait spécialisé sur les conséquences de ces traitements et qui pourrait du coup prendre en charge plus facilement plutôt que rester dans des errances diagnostiques qui durent pour certains des mois.
Mais en attendant la concrétisation de ces mesures, est-ce que le fluoroquinolone est toujours prescrit comme avant par les médecins ?
Pas tout à fait. Fort heureusement, le ministère de la Santé nous a communiqué ces chiffres hier. Les derniers, c'est entre 2015 et 2022, le nombre de prescriptions de fluoroquinolone a diminué de 39%.
Ah, très bien.
Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Et selon les chiffres de l'association, mais qui ne sont pas compilés, ça continue de diminuer depuis l'année dernière. Sauf que c'est encore insuffisant, à tel point qu'en mai dernier, l'agence européenne, cette fois-ci, du médicament, constatait que les fluoroquinolones étaient encore trop utilisés à des fins qui ne respectent pas les recommandations. Résultat, elle a dû quand même faire un rappel à l'ordre à tous les pays membres, dont la France.
Merci beaucoup Amélie, merci à toute votre équipe pour cette enquête. Vous continuez évidemment de suivre le dossier et d'accompagner les victimes qui vous ont contacté. On parle de quoi demain Amélie ?
Eh ben demain on parle des vacances de l'enfer.
Ah alors, enfin. Mais oui, j'attends depuis lundi.
Eh ben écoutez, je profite de votre gentillesse Estelle pour prendre la parole et pour dire mes amis d'Air France, n'hésitez pas à revenir vers nous dans la journée pour qu'on puisse annoncer une bonne nouvelle demain.
Ils vous ont pas rappelé ?
Ils nous ont fourni une explication qui est insatisfaisante à ce stade et vous me connaissez ?
Oui.
Mais je sais pas que je suis difficile.
Vous savez quoi ? On la donnera demain en direct à l'antenne.
Voilà.
S'il ne nous rappelle
pas. Je m'accroche.
C'est pas une menace. Mais enfin,
à peine dissimulé.
Ce serait quand même mieux qu'il nous appelle.
Allez. Hein ?
On va dire ça comme
on
ça.
On va dire ça comme ça.
Allez. Amélie, petite question. D'une indiscrétion folle. Est-ce que vous mangez du fromage à la fin des repas ?
Waouh, quelle question.
Ouais, je suis
dingue. Oui, évidemment. Enfin, mais même je mange du fromage à la place du repas. En fait, le fromage est ma passion.
Mais écoutez, je suis d'accord avec vous, mais malheureusement,
je sais.
Les Français en consomment de moins en moins. Il y a même des fromages qui disparaissent chaque année.
Oh non.
En France, est-ce qu'il faut réhabiliter le fromage à la fin des repas ? On en parle avec vous dans un instant au 32-16 et sur la Pierre MC.
RMC midi 15h. Estelle midi.